too.
Oh, I don't know, man.
Est-ce que vous vous souvenez de ce sketch de Coluche sur la publicité où il était question des campagnes jumelées? Pendant 3 semaines, ils font les dragées FUCA, faut les prendre 2 par 2. Donc pendant 3 semaines, ils font les dragées FUCA, 2 le matin et 1 le soir. Pardon, monsieur la pharmacie, suivez la ligne jaune. Et après, pendant 3 semaines, ils font Ajax WC qui nettoie tout du sol au plafond. Ce sketch de Coluche qui a plus de 30 ans, je m'en suis souvenu ce matin en attendant Nicole Ferroni à propos de ces bousculades qui ont eu lieu dans plusieurs supermarchés pour des couches en promotion ce matin. Après le Nutella, les Pampers, on n'est pas très loin du produit WC après les dragées. Mais là où Coluche était drôle et surprenant, c'est qu'il riait avec les victimes de cette folie de la consommation. Il riait pas d'elles. À aucun moment il ne faisait rire, au contraire, de notre propre aliénation collective. Ce qui est terrible dans le rire sous-jacent aujourd'hui, c'est qu'il est provoqué par ces vidéos individuelles, en fait, qui mettent en scène la course à la promotion, le spectacle de la misère, la violence sociale pour s'en détacher et pour s'en moquer, sans se rendre compte qu'elles font dans le même temps la publicité de ces Intermarchés et d'un système totalement aliénant. Là, vous conviendrez que c'est plus du tout marrant.
Boomerang, boomerang. Augustin Trapenard.
Bonjour à tous et bienvenue dans Boomerang. Que dit de tout cela mon invité d'aujourd'hui, lui qui, pour ses romans, ne manque jamais de s'inspirer de faits réels et pas des moins sombres, lui qui a déjà croqué à plusieurs reprises les mouvements désespérés et imprévisibles de la foule. Entrer dans la danse, son nouveau livre paraît demain en librairie. Il y raconte à l'aube du XVIe siècle un peuple strasbourgeois touché par une étrange épidémie, un peuple affamé, vaincu, défait, qui danse son désespoir jusqu'à la mort. Bonjour Jean Tellet.
Bonjour Augustin.
Merci beaucoup d'être là. Ces ruées à l'intérieur de supermarchés dont on a tant parlé, dont on parle encore, quelle histoire est-ce que ça raconte pour vous? Et là, c'est autant aux romanciers qui partent de faits divers qu'aux citoyens que je m'adresse.
Ça raconte que des gens qu'on suppose pauvres, comment ils peuvent agir pour 3 euros de réduction sur un pot de Nutella. Et ça raconte que quand on est dans un état de grande pauvreté, on peut faire n'importe quoi. Et ce qui se passe dans mon roman, c'est aussi ça. C'est des gens qui sont dans un état de famine totale et qui font n'importe quoi.
Dans Entrer dans la danse, vous parlez effectivement de ce mouvement de foule dont l'origine n'est pas sans lien avec celui dont on parle. Ça se passe en 1518, hein, mais un peuple qui se met à danser frénétiquement par la misère, pour la misère.
Oui, parce que c'est arrivé en 1518, donc à Strasbourg, où dans la même année, il aurait tout tombé sur la gueule à Strasbourg. Ils ont eu toutes les maladies qui sont apparues, la peste, le choléra, la lèpre, même une maladie qui s'appelle la suette anglaise. Une maladie, c'est la dernière fois qu'elle est apparue sur Terre. Une maladie, vous chopez ça, 2 jours après, vous êtes mort. Et il y avait eu des catastrophes météorologiques et tous les gens crevaient de faim. Ils étaient dans un état de famine tel que les femmes, quand elles avaient fini d'allaiter avec leur enfant, elles allaient au pont du Corbeau à Strasbourg, balancer leur enfant à la rivière. Et d'autres familles bouffaient leur enfant, il n'y avait rien à manger. Et donc, ils étaient dans un état d'angoisse et de panique. En plus, déboulait une nouvelle religion. Tout d'un coup, il y a eu plein de naissances de Siamois dans Strasbourg. Personne ne comprenait rien. Ils ont même pris une météorite au ras de la ville. Ils se disaient, si même les étoiles se mettent à nous chier sur la gueule... et il y a une femme qui s'appelait Emeline Trofea. Ouais. Et à un moment, elle est sortie dans la rue. Et elle s'est mise à danser.
Alors de quelle danse est-ce qu'il s'agit?
Et alors c'est des danses de l'époque, parce que les médecins au début ont cru que c'était comme une crise d'ergotisme, sauf que l'ergotisme c'est la moisissure du seigle. Et quand on mange du pain avec du seigle moisi, on se retrouve dans un état de transe, parce que l'ergotisme c'est le LSD à l'état pur. D'ailleurs, le LSD c'est la reconstitution chimique de l'ergot de seigle. Et ces gens qui étaient dans un désespoir total, le problème de la danse d'Emeline Trofea, c'est que sa danse est devenue contagieuse. Les gens la voyaient danser, des gens qui étaient dans la même situation de catastrophe qu'elle, et sont approchés, et puis ils ont été des dizaines, puis des centaines, et tout ça a démarré rue du Jeu des Enfants à Strasbourg.
Ah, c'est une ah bon, on va génial, en reparler. Voilà. On en reparlera plus tard, mais j'aimerais lire quand même un extrait de votre roman Entrer dans la danse, page 64. pendant que les musiciens n'en peuvent plus de s'essouffler sur un fifre, un tambourin, de tousser dans un cornet en épuisant leur répertoire, de devoir, quand les danseurs mollissent, jouer avec davantage d'intensité pour les forcer à presser le pas, les victimes de la manie dansante tombent par dizaines en tas, raides morts sur l'estrade. C'est une vision cauchemardesque. Même les plus aisés, aux bas brillamment colorés et chemises en dentelle, décèdent de crises cardiaques. Ce carnaval vira l'hécatombe. Il règne un sentiment de fin de monde. Beaucoup ont des visions, hurlent qu'ils flottent sur une mer de sang. Ils claquent en masse. Des marchands suisses en transit dans la cité républicaine fortifiée, assistant à la scène de l'autre côté des chaînes, fuient la ville et emportent avec eux l'histoire des danseurs qu'ils raconteront partout, en commençant par « C'est l'histoire d'un peuple ». Qui a perdu l'espoir.
Et voilà.
Chantelet, si le peuple a perdu espoir, comment on fait pour lui rendre ?
Alors, comment on fait pour lui rendre ? Pour cette histoire à Strasbourg, ben, il a fallu changer de religion, quoi, parce que c'était une époque où le clergé s'est tellement mal comporté à Strasbourg. Ben, le clergé abusait des gens et essayait de vendre des indulgences, demander aux gens d'acheter des indulgences alors qu'ils n'avaient rien à bouffer, qu'ils en étaient à bouffer leurs gosses.
Vous parlez d'une révolution.
Les indulgences, en fait. C'est une saloperie, ce truc-là. C'est-à-dire que si vous donnez de l'argent au clergé, c'était pour reconstruire la basilique Saint-Pierre de Rome, de Léon X. Si vous donniez de l'argent au clergé, ça vous faisait des réductions de temps de purgatoire ou d'enfer, quoi. Et si vous donniez pas d'argent, on vous menaçait à Strasbourg de vous faire enterrer sur la colline du Bourreau, qui était le seul terrain non béni de Strasbourg. Et donc, c'était l'enfer à perpétuité. Et donc, évidemment, qui est arrivé une autre religion qu'on a appelée la réforme et ça a été un énorme bordel, quoi. Donc les gens étaient paumés, ils ne savaient plus en quoi croire.
Mais aujourd'hui, quel changement radical est-ce qu'on peut espérer pour vous, pour redonner justement l'espoir ?
J'en sais rien, ça, la solution, j'en sais rien, mais partout sur Terre, dans tellement d'endroits, les gens sont dans un tel état de désespoir que je me dis qu'ils vont tous se mettre à danser. D'ailleurs, une fois, pendant que j'écrivais le livre, j'ai entendu sur France Info une journaliste qui racontait à Alep, elle faisait un reportage, qu'elle était arrivée dans une maison dont il y avait le toit qui était écroulé, que tout était en gravats et tout, et qu'en entrant dans cette maison, elle a vu une femme qui dansait toute seule sur le tas de gravats avec des corps d'enfants autour d'elle. Que la journaliste a essayé de la prendre par la main pour pas que les restes des murs lui tombent sur la gueule, et que elle l'a rejetée et qu'elle a continué à danser. Parce qu'au bout d'un moment, il n'y a plus que ça. On sait par exemple qu'à Strasbourg, il y a une femme qui, juste avant d'aller danser, a dit « on n'a plus rien ».
Mais oui.
Alors on danse. C'est notre corps, il nous appartient, on n'a plus que ça.
Et moi,
donc
je
à
pense
un moment, il n'y a plus que ça comme solution. Quoi.
Tout de suite, j'entelais à cette phrase de Pina Bausch qui disait « danser, danser, sinon nous sommes perdus ». Comme si danser, c'était aussi une manière de résister.
Mais exactement. Et Shakespeare parle de cet événement de Strasbourg dans une de ses pièces de théâtre qu'il appelle « The Dancing Plague », la peste dansante. Et voilà.
Comment vous résistez, vous le fils d'anciens communistes de la première heure ?
Oh ben, moi, je suis vraiment très, très privilégié. Maintenant, effectivement, ma mère était concierge de la mairie d'Arcueil, mairie communiste, mon père ouvrier et tout. Mais moi, j'ai eu la chance d'avoir une vie qui est vraiment confortable. Mais ça me rend pas aveugle et je vois bien à quel point tellement de gens sont en état de souffrance. Par exemple, même dans un pays comme les États-Unis, qu'on prend souvent en exemple, il y a 40 millions de personnes aux États-Unis qui vivent en dessous du seuil de la pauvreté. Ça, aux États-Unis, alors partout ailleurs.
Mais vous voyez, la question que je vous pose, j'entends l'écrire, c'est une façon de résister, justement, de s'indigner, d'agir aussi.
Oui, oui, oui. Et moi, souvent, quand j'écris des romans historiques, en fait, je fais semblant d'écrire des romans historiques, mais à chaque fois, je parle de maintenant.
Oui.
Quoi. Et c'est ça le
alors,
truc.
Moi, ce qui me frappe quand même, c'est la dimension macabre de cette danse et ce goût pour le macabre, quelque chose qu'on retrouve dans toute votre œuvre, de l'homme qui se fait dévorer par la foule, au massacre de la Saint-Barthélemy, en passant par une tueuse en série empoisonneuse dans Fleurs du Tonnerre. D'où vient-il ce goût pour le macabre que je partage moi en tant que lecteur et qui me vient de ma grand-mère Colette Trappenarpé à son âme, à qui je rends hommage ce matin, et qui avait un goût assez suspect pour les histoires sordides.
Eh ben, on a eu à peu près la même famille, parce que moi c'était ma mère. Si elle entend ça, elle va râler parce qu'elle n'aime pas que je raconte ça. Mais quand j'étais enfant, elle me racontait que des histoires horribles.
Mais du genre
Du genre, à un moment, elle me racontait qu'il y avait un motard qui avait sur une route qui avait voulu doubler un camion qui transportait des plaques de tôle, et qu'une plaque de tôle a glissé et que ça a coupé la tête du motard qui doublait le camion, et qu'il a continué à doubler le camion sans tête. Ça me terrifiait. Et je crois que, parce que j'ai été élevé à ce lait-là aussi, j'ai jamais pu me défaire de ça. Quoi,
alors
de,
c'est écrire, ou alors c'est 20 ans de psychanalyse.
Mais voilà, mais je préfère écrire.
Celle qui est macabre dans cette émission, vous la connaissez, c'est la culture,
mais
évidemment.
Si, mais il me semblait bien.
La culture a son actualité un peu trop osseuse, mais qui ne recule jamais devant un pas de bourré, un twerk ou un collet serré. Que se passe-t-il donc aujourd'hui, mercredi 31 janvier? Gérard May, relevé, le Festival international du film fantastique de Gérard May. Rendez-vous incontournable des amateurs de frissons, justement, ouvre aujourd'hui sa 25e édition. Présidée par Mathieu Kassovitz, l'événement s'annonce redoutable avec un hommage au terrifiant Hubert Alex de la Iglesia, un prix d'honneur à Scream de Wes Craven et une compète internationale avec notamment Revenge de Coralie Farja ou Bonne Manière des Brésiliens Marco Dutra et Juliana Roras. Passion, frissons.
Allô?
Allô?
Allô, j'écoute.
Allô? Bonjour, monsieur.
Bonjour, monsieur.
Je vous téléphone pour savoir si vous avez des appareils pour la surdité.
Oui, monsieur.
Allô?
Oui, nous avons des appareils pour la surdité.
Est-ce que vous avez des appareils pour la surdité, monsieur?
Et Péchin, oui, monsieur, raccrocha l'humoriste Pierre Péchin, vedette d'Europe 1. Dans les années 70 et 80, c'était un lundi. Il avait 70 ans, sorti du cours Simon et du cabaret. Il s'était rendu célèbre grâce à ses canulars téléphoniques, dont il disait en avoir réalisé plus de 5000. Lauréat du prix de l'humour SACEM en 1975, Péchin restera comme un modèle pour toute une génération d'humoristes, et notamment Raphaël Mesrahi, qui lui rendra hommage sur la scène des Folies Bergères le 12 février. Allez! Sonnez au bois, résonnez musette à Nantes, on fait la fête, la folle journée de Nantes, festival chic de musique classique s'ouvre aujourd'hui sur le thème Vers un monde nouveau, au programme une mise à l'honneur des compositeurs en exil, notamment avec un concert de l'Orchestre Philharmonique de l'Oural interprétant la 3e symphonie de Sergueï Rachmaninov. Et sinon, véritable marathon, l'événement promet 288 concerts en 5 jours, en avant la musique. Mercredi de foule ciné à la cool, car aujourd'hui dans les salles on se prend l'insulte en pleine face. Le film choc du Libanais Ziad Doheri en lice pour l'Oscar du film étranger. On dit oui à Gaspard va au mariage, la comédie animale d'Anthony Cordier portée par le rugissant Félix Moati qui était notre invité jeudi dernier. Et sinon on encaisse Sparring, le drame coup de poing de Samuel Jouy avec Mathieu Kassovitz, nous aussi. Et Jean Tellet, invité exceptionnel de Boomerang ce matin, pour entrer dans la danse son nouveau roman, où vous renouez, Jean, on l'a compris, avec votre intérêt pour la grande histoire. Je pense à Fleur de Tonnerre, dont on a parlé, mais surtout au Montespan, à Charlie Neuf, à Mangez-le si vous voulez. Depuis quand remonte cet intérêt pour l'histoire?
Pas depuis l'école, en tout cas, parce que l'école, je trouve qu'on me l'a raconté très très mal, l'histoire. Il fallait apprendre des dates par cœur, des trucs comme ça, c'était compliqué.
Attention, l'éducation nationale vous écoute.
Oui, mais il n'empêche que c'était un peu emmerdant et que quand je... maintenant, j'ai plus trop le temps, mais quand j'allais dans des lycées, des trucs comme ça, pour rencontrer des élèves, souvent les élèves me disaient, devant les profs, « Ah, monsieur, si on nous apprenait l'histoire comme vous, on aurait des meilleures notes. » Et en fait, l'histoire, c'est vraiment passionnant et d'aller fouiller, d'aller chercher des pépites, des truffes dans tout ça.
Vous voulez dire l'enseigner par le détail, narrativiser,
oui. Et puis emmener les gens dedans dans l'histoire. Les premières personnes qui ont lu ce livre là, qui m'en ont parlé par exemple, me disent qu'il leur reste l'odeur du livre, alors que mon livre il sent le papier, mais ils ont l'odeur de ce que je raconte, oui. De la panique dans Strasbourg et tout ça.
On pense d'ailleurs à certains endroits au parfum de Suskind.
Oui, bah oui, et ça, j'en suis bien contente, ça. Ouais.
Quel genre d'élève est-ce que vous étiez, vous?
Mauvais. J'ai terminé en troisième. J'ai arrêté mes études en troisième. J'étais dernier de la classe. Et on m'a, au conseil d'orientation, du coup, on m'a foutu en mécanique auto. Je me suis dit, putain, mécanique auto. Toute ma vie, je vais me prendre de l'huile de vidange sur la gueule et tout. Et coup de bol, j'avais un professeur de dessin formidable.
Ah, ce fameux
fameux professeur de troisième que vous remerciez tout le temps.
Ah là là là, bah ouais, mais alors il m'a sauvé la vie, ce prof qui m'a pris par la main et tout, qui m'a donné des cours du soir gratuitement, qui m'a fait rentrer dans une école de dessin. Et ça, c'est quand même bien quand un prof vous sauve.
Oui, parce qu'il faut le rappeler quand même, votre carrière, elle commence par le dessin. Jean Tellet, vous avez fait de la bande dessinée pendant plus de 10 ans. Vous avez même été primé à Angoulême il y a 27 ans pour, je cite, votre contribution exceptionnelle au renouvellement du genre de la bande dessinée.
Mais oui, et quand j'ai reçu ce prix-là, j'ai cru que j'étais mort. Ça faisait prix posthume. Et on me l'a remis un samedi, et le lundi, j'ai foutu mes, vraiment tous mes pinceaux, mes couleurs, les crayons, tout à la poubelle. J'ai appelé mon éditeur, Casterman, à l'époque, en disant « j'arrête la bande dessinée ».
Mais vous dessinez plus du tout ?
Et j'ai arrêté pile ce jour-là, mais vraiment... Mais c'était au moment où je commençais à travailler avec Bernard Rapp pour l'assiette anglaise, dont de toute façon, j'allais pas pouvoir faire les deux.
Mais vous dessinez un peu aujourd'hui.
Non, à part pour les dédicaces.
Bah, c'est ça.
Ou pour quand je fais des, quand je veux raconter une scène et que j'arrive. Moi, j'ai besoin que mes livres soient très visuels. Ah. Et d'ailleurs, souvent, les gens me disent qu'ils ont l'impression de voir les images. Et quand j'ai un petit peu de mal sur une scène, je me la griffonne, je me l'accroche au mur devant moi et ça m'aide pour l'écrire. Mais autrement, j'ai tout arrêté.
Vos manuscrits doivent être incroyables, du coup.
Mais mais je les fous tous à la poubelle.
C'est malheureux.
Je jette tout.
Oui, c'est malheureux. Sur le livre que vous m'avez dédicacé, vous avez quand même dessiné une paire de chaussons de danse. J'étais touché.
Ouais, ben voilà, des ballerines. Ouais.
Ah, j'ai pas compris les ballerines, par contre.
Parce que ça va bien avec la danse.
D'accord. Je vais vous demander de faire un petit effort, parce que vous êtes dans Boomerang et que franchement, on le vaut bien. Si ce livre, Entré dans la danse, était un dessin, quel serait-il ? Est-ce que vous pourriez nous le décrire ?
Oh ben, ce serait sans doute le dessin de la couverture qui représente deux squelettes qui sont en train de danser, et c'est un dessin qui a été fait à l'époque, c'est un vrai dessin de l'époque où le dessinateur a voulu faire une danse complètement folle, et en fait c'est comme s'il avait inventé le rock'n'roll, parce que les positions des squelettes sur la couve du livre sont incroyables, et donc à chaque fois que je repense à ce livre, c'est à cette image-là que je vois deux squelettes qui dansent comme mes danseurs de Strasbourg, qui ne pouvait plus s'arrêter de danser. Il dansait nuit et jour pendant des semaines, les pieds en sang, cartilage apparent et tout. Et il pouvait plus s'arrêter, Et il en crevait de crise cardiaque une trentaine par jour. Enfin, ça a dû être un truc de ouf à voir ça.
Ouais. Et si c'était une chanson, du coup, votre livre, ce serait quoi?
Ça serait l'intro de Paint in Black.
Ah.
Ouais. Je trouve que c'est un trou
génial. Stones.
Ouais, bien sûr.
Ou de Marie Laforêt.
des Stones et je trouve l'intro formidable.
Moi, j'ai pensé à La Foule parce que vous la citez.
Oui. À un moment, je termine un chapitre par, je sais pas quoi. Arrêtez la musique. Un truc comme ça.
Vous me donnez envie, là. La Foule, Édith Piaf, 1957, ce qui nous rapproche à la fois de votre livre, de ma grand-mère Colette et du XVIe siècle, même si on aime tant. Vous êtes sur France Inter avec Jean Tellet. Vous écoutez Boomerang, évidemment.
Je revois la ville en fête et en délire, suffoquant sous le soleil et sous la joie. Et j'entends dans la musique les cris, les rires qui éclatent et rebondissent autour de moi. Et perdu parmi ces gens qui me bousculent, étourdi, désemparé, je reste là. Quand soudain je me retourne, il se recule, et la foule vient me jeter entre ses bras. Emporté par la foule qui nous traîne, nous entraîne, écrasés l'un contre l'autre, nous ne formons qu'un seul corps. Et le flot sans effort nous pousse enchaîner l'un et l'autre, et nous laisse tous deux épanouis, enivrés et heureux. Entraînés par la foule qui s'élance et qui danse une folle farandole, nos deux mains restent soudées. Et parfois soulevés, nos deux corps enlacés s'envolent et retombent tous deux épanouis, enivrés et heureux. Et la joie qu'elle a poussée par son sourire me transperce et rejaillit au fond de moi. Mais soudain, je pousse un cri parmi les rires quand la foule vient l'arracher d'entre mes bras. Emportée par la foule qui nous traîne, nous entraîne, nous éloigne l'un de l'autre, je lutte et je me débat. Mais le son de ma voix s'étouffe dans le rire des autres, et je crie de douleur, de fureur et de rage, et je pleure. Et traînée par la foule qui s'élance et qui danse une folle farandole, je suis emportée au loin. Et je crispe mes poings maudissant la foule qui me vole, l'homme qu'elle m'avait donné que je n'ai jamais retrouvé.
Boomerang sur France Inter. Augustin Trapenard.
Arrêtez la musique, c'était dans l'accordéoniste plutôt.
Et mais oui, mais vous avez raison.
Et cela dit, avec sa dégaine de géant vert débonnaire, il a quelque chose de l'accordéoniste très grand, avec son œil bleu malin, brun médiéval, sa boucle alpine et souriante. Il a tout du personnage de roman, hein, quelque part entre le bandit de grand chemin, le monarque de droit divin, le moine détective, petit pull noir en V sur un t-shirt avec ses lunettes carrées, blond à en pleurer, Jean Telet, invité de Boomerang, pour entrer dans la danse, son 17e livre où vous racontez, Jean, l'histoire d'une épidémie. On est à Strasbourg, je le rappelle, Strasbourg, au début du 16e siècle, le peuple est affamé à cause de mauvaises récoltes, il en est réduit à manger les nourrissons notamment. Et là, en pleine rue du Jeu des Enfants, une femme se met à danser. Il vous évoque quoi le nom de cette rue, le Jeu des Enfants?
Oh, chaud, c'est génial. Mais de toute façon, à Strasbourg, il y a des noms de rues incroyables. Il y a la rue des Halbardiers, il y a la rue des Écrivains. Il y a une rue qui s'appelle rue des Couples. Et j'adore cette ville. C'est une ville absolument... et puis la rue du Jeu des Enfants. Et là, maintenant, ils ont peint les pavés avec en peinture jaune, bleue, rouge, comme ça. Et tous les mômes qui arrivent dans cette rue essayent de marcher que sur les pavés jaunes et trucs comme ça, et jouent.
Vous conviendrez que pour moi, c'est un catalyseur surtout de questions formidables. À quoi est-ce que vous jouiez quand vous étiez enfant, vous?
Je jouais pas beaucoup parce que c'était au moment de l'OAS et comme mes parents étaient concierges d'une mairie communiste, ils avaient la parano qu'il m'arrive des trucs et tout, donc j'avais pas le droit de sortir.
On peut jouer dans sa chambre.
Mais alors justement, comme ils étaient très militants communistes, il y avait plein de tracts qui étaient imprimés d'un côté, non à l'OAS, le fasciste ne passera pas, et je m'étais aperçu qu'au dos ils étaient vierges. Et donc, avec des crayons, j'ai commencé à griffonner des cow-boys et tout. Et si je me suis mis à faire du dessin, c'est finalement grâce à l'OS. Ce qui fait qu'on en dit beaucoup de mal, mais il y avait du bien aussi quand même.
Et écrire, vous écriviez déjà, petit?
Non, pas du tout. Moi, j'ai jamais voulu être écrivain. C'est une éditrice qui s'appelait Elisabeth Gilles, qui, quand je travaillais à Canal, un jour m'a appelé en me disant, ça fait des années que je vous entends à la télé, ça fait des années que je me dis qu'en fait, vous êtes un écrivain qui ne le savait pas. Venez, je vous signe un contrat. Et c'est comme ça que je suis devenu écrivain.
Quel jeu est-ce que ce serait, l'écriture, pour vous?
Je sais pas si c'est un jeu. En tout cas, c'est un métier. Quand on peut vivre de ça, c'est un métier incroyable. Personne ne vous emmerde. Moi, je fais ce que je veux. Il y a personne qui me donne un ordre. Je travaille comme je veux, quand je veux. Et
mais cela dit, ça peut être un jeu dangereux, Jean Telet, parce qu'il paraît que quand vous écrivez, vous développez d'étranges symptômes.
Oh là là, mais la plupart du, pas sur celui-là, bizarrement. Mais à chaque livre, j'attrape des maladies différentes. Quand j'écrivais Jeux-François Pavillon, j'avais des marques à l'intérieur rouge, à l'intérieur des mains, et puis quand j'ai écrit Fleur de tonnerre, chaque fois elle faisait à bouffer à quelqu'un, les gens avaient mal au ventre et ils en crevaient. Et un jour, et moi, au fur et à mesure que j'écrivais ce livre, j'avais de plus en plus mal au ventre. Je me dis, ça y est, je me suis chopé 15 cancers et tout. Je suis allé voir un proctologue, putain, c'est quelque chose, la visite du proctologue, bonjour monsieur, on se retrouve avec deux doigts dans le cul, depuis pas une carte postale, pas ton anus me manque et tout. Et puis au bout du compte, il m'a dit vous n'avez rien. Et moi j'ai quand même une ordonnance. De
vous aviez de l'empathie.
Où il y a écrit juste l'empoisonneuse doit disparaître. Et à chaque livre, je me chope des trucs.
Ça veut dire que vous vous interdisez d'écrire sur certains sujets ?
Ben je fais maintenant un peu gaffe au sujet parce que je me dis qu'est-ce que je vais choper comme maladie.
Je suis
tellement dans le livre que je vis tellement avec les gens que je ressens. Et là, par exemple, pendant que j'écrivais
Entrer dans la danse,
je me suis mis à ne presque plus manger. Et comme si j'avais besoin, moi, que mon corps soit dans un état de famine, mais je pouvais pas écrire j'aurais pas pu écrire ce livre rassasié.
Vous avez dansé aussi?
Et oui, de façon un petit peu dingote et tout.
Quel type de danse? Moi, je pensais à la Macarena, effectivement. Ou alors quelque chose d'un petit peu plus pointu et minimaliste, façon Anne-Thérèse de Kersmaeker.
Oui, mais moi, le dernier souvenir de danse que j'ai, c'est quand, à la foire du livre de Brive, il m'avait demandé si je voulais en être le président. J'avais dit oui, mais, à la foire du livre de Brive, tous les écrivains vont dans une boîte qui s'appelle le Cardinal. Et j'avais décidé d'organiser la plus belle chenille possible.
À la chenille.
Et alors tout le Cardinal j'avais réussi à organiser cette chenille et tout. J'étais fier parce que tout le monde me disait que j'avais fait la plus belle chenille jamais vue sur Terre.
Et ça veut dire qu'il y avait Christine Angot, Amélie Nothomb.
Exactement. Ouais.
Dans la chenille.
Ouais.
C'était extraordinaire, ce qu'on apprend dans Boomerang. Et tout moi, je pense, en tout cas, si la danse, on l'a compris, n'est pas à l'origine de votre envie d'écrire, il faut peut-être rappeler l'importance qu'a eu la rencontre avec la musique et la poésie grâce, Jean Tellet,
à Léo Ferré. Ouais. Moi, ado, j'ai me suis mis à écouter, mais en boucle, Léo Ferré qui chantait Rimbaud, Verlaine et Baudelaire. Et ce type-là a été un passeur pour moi. Et c'est pour ça que plus tard, moi, j'ai voulu faire la même chose en écrivant un livre sur Rimbaud, un livre sur
Rimbaud pour Rimbaud.
Voilà. Et il y avait eu après au Verlaine, je François Villon. Et j'avais envie de faire le même travail de passeur qu'un type comme Ferré avait fait pour moi.
Ouais. On les écoute encore, ces poètes populaires?
Et sans doute que non. La poésie, de toute façon, tout le monde a un petit peu tendance à s'en foutre. Et c'est vrai que moi, quand j'étais ado, j'étais absolument fasciné par Ferré. Et puis que maintenant, je trouve ça finalement en fait assez grandiloquent. Et avec Ferré, j'ai une drôle d'histoire, c'est que j'ai assisté à un de ses derniers concerts et puis l'attaché de presse m'avait repéré parce que je faisais de la télé en disant j'entends souvent que vous parliez de Ferré, vous voudriez le rencontrer. J'avais dit Ferré, bien sûr que oui. Et puis je suis allé le voir dans sa loge et au bout de 5 minutes, il m'a pas plu du tout. Et en fait, je me suis dit que les artistes, il faut pas les connaître. Le mieux qu'ils peuvent donner, c'est dans leur œuvre. Un mec comme Verlaine, on peut pas lui demander en plus de bien faire la vaisselle, d'être gentil avec sa femme. Il est Verlaine, c'est déjà pas mal, non?
C'est avec un poème de Rimbaud que vous êtes venu ce matin, Jean, pour terminer cette émission, un poème qui s'appelle Le cœur volé. On vous écoute.
Alors, le cœur volé, quand on le lit, on a un petit peu de mal à comprendre de quoi ça parle. Ça, par exemple, le début, ça donne « Mon triste cœur bave à la poupe, mon cœur couvert de caporal, il lance des jets des soupes ». On ne comprend pas très bien. Pour bien comprendre ce poème, il faut connaître la clé. Et en fait, l'histoire, c'est que Rimbaud, quand il a eu 16 ans, en 1871, est arrivé à Paris. Il était beau comme un ange, avait les cheveux longs et tout. Et il a été victime d'un viol collectif à la caserne Babylone par des militaires qui l'ont chopé et qui tous ensemble ils se le sont volé. Et lui quand il avait écrit sa première version de ce poème, Rimbaud, il l'avait appelé le cul violé. Et quand on lit comme ça, le poème est vraiment fort et sidérant. Donc le cul violé. Mon triste cul bava la poupe, mon cul couvert de caporal. Ils y lancent des jets de soupe. Mon triste cul bava la poupe sous les quolibets de la troupe qui pousse un rire général. Mon triste cul bava la poupe, mon cul couvert de caporal. Itifaliques et pioupiesques, leurs quolibets l'ont dépravé. Au gouvernail, on voit des fresques itifaliques et pioupiesques. Au flot, abracadabrantesque, prenez mon cul qu'il soit lavé. Itifaliques et pioupiesques, leurs quolibets l'ont dépravé. Quand ils auront tari leur chic, comment agir au cul violé? Ce seront des hoquets bachiques quand ils auront tari leur chic. J'aurai des sursauts stomachiques, moi si mon cul est ravalé, quand ils auront tari leur chic, comment agir au cul violé?
poème terrible sur le viol.
Sur le viol, et c'est comme si c'était l'hymne du viol pour les femmes, les enfants, les hommes qui se font violer partout sur Terre.
Merci Jean Tollet.
Merci à vous.
Faire un tour dans Boomerang, entrez dans la danse. Votre nouveau roman est publié chez Julliard, il sort demain. En attendant, sortez, courez, dansez, chantez, mais pas avant d'avoir écouté Sonia De Villers et son Instant M qu'on retrouve juste après ça. I don't wanna see you cry. You don't have to feel this emptiness. She said I love you till the day that I die. Maybe she's right. Cause I don't wanna feel like I'm not me. And to be honest, I don't even know why I let myself get down in the first place. To get yourself to sleep and dream a dream of you and I. There's no need to keep an open eye. I promise I'm the one for you. Just let me hold you in these arms tonight. I'm lucky to be me. You can see it in my face. Back when I fucked my shit up too many times, why would I let myself get down in the first?